À nous deux le couple, c'est une belle association qui est née à Tarbes il y a maintenant quelques années, puisque l'association a été créée en juillet 2019. Bonjour Anne-Marie Wolfsfeld.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'un très beau colloque qui est organisé par votre association, À nous deux le couple, qui aura lieu, on va déjà le donner la date, c'est le 14 octobre. Vous avez eu la chance d'être dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tarbes. Voilà, c'est un colloque qui va durer toute une journée. C'est entièrement gratuit et on va parler du couple et de la sexualité. Vous êtes, vous, thérapeute de couple et sexologue et vous êtes venu avec la secrétaire de l'association.
Oui.
Bonjour Esmeralda Pereira.
Bonjour.
Merci aussi d'être venu. Je sais que ça a été un petit peu compliqué pour venir jusqu'à nos studios, mais vous voyez, on y est arrivé et on est ensemble. À nous deux le couple, est-ce qu'on peut parler de cette association? Cette association est née d'un livre, Madame Wolfsfeld, que vous avez
Oui.
écrit, qui
Oui.
s'appelle le
À
même
nous deux
nom,
le
À nous deux
couple.
le couple. Et donc de ce livre est née cette association parce que vous vouliez organiser des colloques, des conférences,
Oui.
et il faut bien sûr, pour faire ça, avoir une structure associative. Voilà, si j'ai bien résumé,
C'est
voilà.
ça.
Donc est née cette association et vous organisez donc, ça aurait dû être la quatrième, mais effectivement avec la période Covid, beaucoup de choses ont été annulées. Donc votre colloque, un des colloques a été annulé et donc vous en êtes à la troisième édition. Troisième édition qui change un petit peu puisque vous êtes passé de la demi-journée cette fois-ci à la journée.
Oui.
Voilà. Alors, on va parler de tout ça, on va parler du programme, des intervenants, mais on va un peu vous découvrir, hein. Je disais que vous étiez thérapeute de couple et sexologue. C'est quoi
Oui.
une thérapeute de couple?
Une thérapeute de couple, c'est une personne qui est au milieu. Elle est entre les deux personnes du couple et elle s'adresse au lien du couple. C'est-à-dire que c'est une médiation, et une médiation sur trois niveaux. Une médiation lexicale, parce que l'homme et la femme n'ont pas le même vocabulaire. Et souvent, ils se disputent parce qu'ils ne comprennent pas les mots l'un de l'autre. Donc, médiation lexicale, c'est une médiation aussi organisationnelle. Qui fait quoi et quand? Dans la maison, hors de la maison. Et c'est une médiation aussi sexuelle. Parce que là aussi, dans ce domaine-là, l'homme et la femme sont deux univers différents. Donc la thérapeute de couple fait le lien entre deux univers différents qui sont chaque personne du couple. Voilà. Le rôle, c'est de les écouter et surtout que chacun entende la parole de l'autre dans un cadre paisible
Oui.
où la parole ne va pas monter, où ils ne vont pas se disputer,
Parce que vous êtes là.
parce qu'il y a une troisième personne
Parce
neutre.
Voilà.
Voilà.
Et là, des fois, on va peut-être parler à son épouse ou à son époux
Oui.
à travers vous.
Oui. Et l'écoute est
Et
différente.
l'écoute est différente. Et on prend sûrement, les couples prennent conscience des difficultés qu'ils ont l'un envers l'autre alors.
Tout à
Et
fait.
des incompréhensions qui durent depuis
Tout à
des
fait.
mois ou des années.
Les incompréhensions deviennent dissibles. Ils mettent des mots dessus et des mots dans le calme. Donc le mot est entendu.
Si je vous suis bien, je crois qu'il y a quatre parties, hein. Il y a une première partie, les deux ensemble, où on
Oui.
vient un peu parler. Après, je crois que vous recevez chaque personne individuellement, où
Oui.
là peut-être, ben voilà, on déverse un petit
Tout
peu,
à
ce
fait.
qui vous permet aussi de comprendre un petit peu. Et puis il y a un peu quelque part une rétrospective un peu de cette première et des deux entretiens individuels.
Tout à fait.
Et donc la quatrième est révélatrice de beaucoup de choses.
La quatrième.
Rendez-vous avec vous.
Oui,
Le quatrième, c'est-à-dire
le
la synthèse.
troisième, le quatrième ou le cinquième, ça
Oui, après,
dépend.
plus il y a.
Ça dépend. Il y a des couples qui viennent deux ou trois fois, c'est suffisant. D'autres couples qui reviennent une dizaine de fois et d'autres couples qui reviennent 3 ans après ou 4 ans après en me disant on revient pour réviser. Je prends l'exemple d'un monsieur qui m'avait appelé et qui m'avait dit ça va, mais on a besoin de.
Oui. Parce que chasser le naturel, des fois, il revient au galop.
Voilà, on a besoin de réviser, on a besoin d'organiser différemment,
Oui.
parce que la vie de couple, c'est aussi plusieurs étapes. Et à chaque étape, on a besoin, peut-être pas d'aller voir un thérapeute de couple, mais de s'asseoir au moins autour d'une table et de faire le point. et de communiquer.
Vous donnez quelques outils ou quelques préconisations sur, après, lorsque le couple se retrouve, peut-être pour dire, bon voilà, le dialogue, des fois effectivement, hein, un homme et une femme, ce n'est pas pareil, ce n'est vraiment pas pareil. La femme va prendre des mots qui peuvent la blesser. Oui. Un homme, les mots passent, mais il y a des choses comme ça qui est vraiment, et il faut en prendre conscience.
Oui, et ce que vous me disiez préconiser, oui, j'appelle cette préconisation, j'appelle s'inviter sous le même toit. S'inviter sous le même toit, ça veut dire que le couple, c'est aussi une entreprise. Donc il faut prendre des décisions, et je leur dis, essayez au moins une fois par semaine, au moins une fois tous les 15 jours, de vous asseoir autour d'une table, papier, crayon.
Alors, on peut dire que dans la vie d'un couple, il y a plusieurs périodes, vous l'avez dit. Hein.
Oui.
Il y a le début, hein, quand on se rencontre.
La passion,
on n'est que deux. Oui. Puis ensuite, il y a les enfants qui arrivent, et avec tout ce que ça peut engendrer de fatigue, d'énervement. Et puis, une fois les enfants partis, on se retrouve de nouveau tous les deux. Et donc, il y a plusieurs parties dans le couple. Hein. À partir de quand ça va souvent mal? Quand est-ce que vous les voyez, ces couples? Est-ce que c'est après la maternité? Est-ce que c'est même après que les enfants grandissent? C'est quelle période où peut-être ça craque?
Il y a un passage qui est difficile, mais qui est très subtil et qui est très... C'est difficile de trouver un mot. Le passage entre la passion amoureuse et la vie dans la continuité. C'est-à-dire que les couples arrivent la plupart du temps, je pense à 85%, au moment où ils ont l'impression de s'aimer moins. Par exemple, nous avons une maison, nous avons une très belle maison, nous avons de très beaux enfants, tout va bien, la piscine, etc. Nous avons tout pour être heureux et nous ne le sommes pas. À ce moment-là de la vie de couple, il y a un questionnement. Pourquoi je suis à côté de lui? Pourquoi je suis à côté d'elle? Je ne l'aime plus. Mais on parle de l'amour, il n'y a qu'un mot pour dire amour. Il devrait y en avoir plusieurs. L'amour-passion se transforme petit à petit. L'amour-passion diminue.
On dit que l'amour dure 3 ans. Enfin,
Je dis dans mon livre 2 heures à 2 ans. C'est-à-dire, c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est la passion. C'est-à-dire qu'on n'est plus... on arrive à la maison, on n'a pas envie de se sauter dans les bras l'un de l'autre. Il n'y a plus cette attirance très forte. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour. Il y a un attachement, c'est pas le même amour.
Mais est-ce qu'on peut parler, est-ce que ça peut pas glisser sur de l'amitié? Est-ce qu'on ne devient pas colocataire?
C'est ce que Montaigne appelait l'amitié amoureuse.
D'accord.
Amitié amoureuse, c'est-à-dire on reste ensemble, on est quand même amoureux, mais c'est surtout de l'amitié, c'est surtout de la complicité, de la solidarité, du respect des différences, puisqu'on va être de plus en plus différents, ça aussi.
Mais est-ce que lorsqu'on perd un peu la passion, on perd pas un peu sa libido?
Alors, ça c'est très important, la question que vous me posez, parce que c'est ce qui va aboutir à ce que j'appelle le quiproquo sexuel. Ce que vous dites est très vrai. Quand la passion s'arrête, la sexualité entre l'homme et la femme va beaucoup se différencier. C'est-à-dire que l'homme reste toujours dans une spontanéité physiologique de l'excitation sexuelle. La femme, son excitation sexuelle va diminuer avec le temps et cette personne-là. Donc, il va y avoir ce que j'appelle un quiproquo, c'est-à-dire que l'homme va croire que la femme ne l'aime plus parce qu'elle ne le désire plus, et la femme va croire que l'homme ne l'aime plus parce qu'il n'est plus aussi gentil avec elle, parce qu'il n'est plus aussi romantique avec elle. Donc, elle va attendre le romantisme, il va attendre le désir et la sexualité, et ce quiproquo va les faire se séparer, douter l'un de l'autre. c'est au moment du quiproquo sexuel, je crois qu'ils viennent le plus poser des questions. Comment ça se fait? Je ne comprends pas. La femme me dit, je l'aime mon mari et je ne le désire pas. Comment ça se fait? Est-ce que je suis normale? Et l'homme me dit, quand il vient individuellement, j'ai envie d'elle, donc je l'aime. Ça aussi, on est un petit peu à côté de la plaque. Bien sûr, il l'aime et il a envie d'elle, mais ce n'est pas le même rythme. Ce n'est pas la même demande. Ils n'attendent pas la même chose l'un de l'autre.
Conseil qu'on pourrait dire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Marie Wolfsfeld, présidente donc, de cette association En Nous de le Couple qui organise une journée de colloque à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes. Vous êtes thérapeute de couple et sexologue et vous êtes venue donc avec la secrétaire de cette association, Esmeralda Pereira. On va parler de votre colloque qui est important avec des conférenciers et des thèmes abordés importants. On va parler de la maladie avec le cancer, on va parler de la jeunesse avec la pornographie qui devient vraiment un enjeu. Une très belle émission sur France Télévisions a été faite il n'y a pas très longtemps, Cache Investigation sur l'univers de la pornographie avec toutes ces dérives. Et en fait, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est des sites qui font des milliards de vues tous les mois. Des milliards de vues tous les mois. C'est absolument incroyable. Et vous me disiez que les premières images que les enfants aujourd'hui, avec tous les moyens, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, c'est vers 9-10 ans. 8, 9, 10 ans.
10, 11 ans.
10, 11 ans, oui. Où on commence à voir les premières images pornographiques.
Tout à fait.
Oui. Et après, c'est plutôt vers la puberté, début de la puberté, 13-14 ans.
À 13 ans, on peut dire que 50% des garçons, 57% et 33% des filles regardent. À partir de 13 ans, oui, on peut faire des statistiques.
Alors, on peut dire qu'effectivement, il y a des messages d'alerte en disant que ces films-là ou ce qu'ils voient, ce n'est pas la réalité. Chacun va devoir vivre sa sexualité et ça peut aussi engendrer des complexes pour les uns et les autres sur des pratiques qui sont absolument incroyables parce qu'il y a de tout, de tout, de tout, de tout, de tout.
Oui, ce sont des erreurs qui sont... C'est-à-dire que les jeunes ont besoin d'informations, mais ils ont surtout besoin de connaissances.
Il faut bien le distinguo entre l'information et la connaissance.
Je fais vraiment le distinguo entre l'info et la connaissance. Oui, d'ailleurs, on ne peut pas raccourcir le mot de connaissance et on raccourcit celui d'info. Au niveau de la signification, c'est à peu près la même symbolique. Je ne suis pas spécialiste de ce thème-là. Oui. C'est une étudiante qui vient parler de ses analyses, des statistiques qu'elle a fait là-dessus.
Alors, ça serait une table ronde
une table ronde
qui aura lieu donc à 9h15, donc ce 14 octobre à 9h15. Mmh. Alors, le thème de cette table ronde, c'est jeunesse et sexualité, impact de la pornographie et des réseaux sociaux. Et donc, cette intervenante, c'est Léa Provost, avec Philippe Brunot et André Gorman et Virginie Gasque, sera la modératrice. Les médias sociaux et la pornographie ont transformé la sexualité dans toutes ses composantes, de la rencontre aux pratiques sexuelles et à l'intimité. Le jeune se trouve seul devant son écran, sans accompagnement éducatif et sans repère. Comment réagir? Ça sera donc le thème de cette table ronde, qui a l'air vraiment très intéressante. Est-ce que vous allez faire des enregistrements de ces tables rondes? Qu'est-ce qui reste de ce colloque?
Un vidéaste viendra filmer ce colloque.
On peut le retrouver sur votre site.
Je pense qu'on le retrouvera sur YouTube.
Sur YouTube.
Oui, ouais. On le retrouvera sur YouTube.
Jeunesse et sexualité, voilà, impact de la pornographie et des réseaux sociaux, avec cette jeune donc étudiante qui a pris à bras le corps ce sujet. Elle est auteure d'une analyse de données sur 3000 dossiers de patients.
Oui, ce sont les miens d'ailleurs.
Vous en avez beaucoup. En thérapie de couple et sexologie et enquête sur l'impact des réseaux sociaux et de la pornographie sur la jeunesse. Donc elle a travaillé sur ce... Elle le connaît, elle le maîtrise. Donc elle dira des choses très intéressantes. C'est à partir de 9h15.
Elle posera surtout des questions. Je pense que les réponses seront données par aussi M. Philippe Brunot et Monsieur André Corman et Madame Virginie Gasque, qui sont aussi, entre autres, sexologues
et thérapeutes.
Et thérapeutes.
Oui, oui. Philippe oui. Bruno, et on en parlera tout à l'heure dans les oui. différents, puisqu'il est psychiatre, anthropologue, sexologue et thérapeute de couple.
Oui.
Et André Corman, lui, il est directeur de l'enseignement de la faculté de médecine de Toulouse, oui. 3, de la faculté, donc voilà. Et Virginie Gasque est psychologue, clinicienne, sexologue et oncosexologue, gérontopsychologue en EHPAD. Voilà, elle connaît aussi son métier.
Oui.
On va continuer donc à parler de ce colloque qui aura lieu donc le 14 octobre à salle des fêtes de la mairie de Tarbes. À 10h45, là cette fois-ci c'est une conférence de la passion amoureuse à l'amour dans la continuité. Et là c'est vous, Anne-Marie Wolfsvedt, qui allez donner cette conférence. La passion amoureuse ne dure pas. C'est un peu ce que vous nous avez expliqué il y a quelques minutes. Hein. La vie de couple est compliquée. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. On peut s'aimer longtemps et rester en couple, oui. Mais comment? Vous allez donner quelques clés donc,
voilà.
pendant cette conférence.
Oui.
C'est un peu ce que vous nous avez expliqué. Hein,
oui.
Comment deux êtres qui sont opposés, différents,
oui.
des fois même opposés, comment peuvent-ils rester oui. dans le couple? Parce qu'on a peut-être tendance aujourd'hui à aller très vite et échanger, zapper quand oui. ça ne va pas. Et on pense souvent que l'herbe est plus belle ailleurs, plus verte ailleurs.
Oui, je crois qu'on pense que l'herbe est plus verte ailleurs parce qu'on ne regarde plus l'herbe à côté de soi. Le couple pourrait être... bon, aujourd'hui, c'est difficile, mais c'est difficile, c'est compliqué. Parce que y a trois raisons à ça. Des raisons très, très importantes et de bonnes... En fait... Ce sont des bonnes nouvelles, les raisons dont je vais parler. C'est la libération individuelle, hein, plus d'individualisation.
Surtout chez la femme,
surtout
peut-être.
Surtout la liberté de la femme depuis oui. les années 70, donc il y a ce facteur-là. Il y a le fait que nous vivons beaucoup plus longtemps. Et il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la vie de couple ne dépassait pas une dizaine d'années.
Oui.
Pour la bonne raison qu'on vivait beaucoup moins longtemps et que les femmes mouraient beaucoup en couche. Et puis, la troisième raison, c'est on se marie beaucoup plus par amour que par raison. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas se marier par amour, mais c'est vrai que l'amour ne durant pas, les couples se quittent quand ils pensent qu'ils ne s'aiment plus. Et l'erreur, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le fait qu'ils ne s'aiment plus passionnément, mais qu'ils peuvent continuer à s'aimer différemment.
C'est...
Avec beaucoup de complicité, avec beaucoup de solidarité, avec beaucoup de... Et ce qui va aller beaucoup plus loin, je pense, c'est au niveau de la société, c'est Alain, le philosophe, qui a dit « le couple sauvera l'esprit, mais il sauvera la civilisation ». Je pense que le couple, c'est vraiment la cellule, la première cellule de la civilisation, la cellule du centre, du milieu.
Oui, c'est un couple, il ne peut pas y avoir de reproduction, pas de reproduction, fin de l'espèce.
Le couple à la base de la famille, etc.
Oui, la famille,
etc.
Oui, oui.
On parle beaucoup de la famille, mais pas assez du couple. Or, l'un est dans l'autre.
Conférence passionnante, 10h45 donc, pour vous, donc, Anne-Marie Wolfsvedt qui donnerait donc, cette conférence. Dans l'après-midi, une autre conférence, le couple, ça s'apprend, donc avec Philippe Bruno.
Oui.
Philippe Bruno donc, qui est psychiatre, anthropologue, sexologue et thérapeute de couple. Il dirige les enseignements de sexologie et de sexualité humaine à l'université Paris Descartes. Voilà, c'est pas n'importe qui. Il préside l'Observatoire international du couple. Ses recherches concernent l'anthropologie, la psychologie sexuelle et le couple.
Oui.
Donc, le couple moderne a moins de 50 ans. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme et une femme se retrouvent seuls, face à face. Or, tout nous distingue sans que nous le sachions. Les codes du langage, de la sexualité, marqués par des millénaires d'évolution, d'où les innombrables malentendus. Un peu, ça rejoint un peu ce que vous nous,
tout à fait.
Ce que vous nous disiez.
C'est majeur que Philippe Bruno soit, je pense, d'abord anthropologue. C'est-à-dire que l'anthropologie, on ne peut pas être, d'après moi, thérapeute de couple et même sexologue sans... connaître ou chercher ou explorer dans l'évolution de l'humain.
D'accord.
Au cours des siècles, au cours des millénaires. C'est très, très important.
14h, donc cette conférence. Oui. À 15h15, conférence en lien un peu avec la Ligue contre le cancer. Hein.
Oui.
Comment réapprivoiser son couple après le cancer. Mmh. Alors là, on est en octobre, octobre rose, cancer du sein, lorsque le diagnostic tombe, lorsqu'il y a une ablation d'un sein, la femme se sent absolument marquée par ça, dans sa féminité, dans sa sexualité. Le mari aussi, qu'il y a quelqu'un qui est malade. Mais ça,
et puis, il peut y avoir un cancer du sein chez l'homme aussi.
Oui, 1%. Mmh. 1%, si j'ai bien retenu mes leçons, c'est 1% pour les hommes. Mais effectivement, il peut y avoir un cancer du sein chez l'homme. Il est vrai que là, le couple, ben, il va falloir qu'il tienne. Parce que lorsqu'il y a ce genre de choses, avec un acte chirurgical, avec une ablation de quelque chose, ben, il y a un changement. Oui. Ça vaut aussi pour les hommes avec la prostate, ainsi
de
suite.
Tout à fait, tout à fait.
Oui. Et du coup, ben là, il faut que le couple soit solide.
C'est-à-dire que la sexualité, le regard sur l'autre, l'image de l'autre, n'est pas qu'une image matérielle. Et je pense que là, il est important de travailler sur tout ce qui est autour de la sensualité. Alors la sensualité, c'est-à-dire le toucher, la vue, l'odorat, mais toucher l'autre, c'est pas toucher une forme, c'est toucher une pensée, c'est toucher un être. Voilà, quand vous parliez de chirurgie, ça veut dire cicatrice, ça veut dire, c'est pas comme d'habitude, c'est pas aussi doux, c'est pas aussi... Cet apprentissage-là de l'autre, comme si on le frôlait, on n'a même pas besoin de le toucher, on le frôle. Et même, vous allez me dire, c'est l'aspect tout à fait physique, mais oui, mais je pense qu'il y a un relais entre le toucher, la pensée, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est la transformation de ce que je vois et de ce que je touche entre ça et ce que je ressens. La caresse, c'est un relais entre l'apprentissage et l'intuition des gestes. L'intuition des gestes, c'est j'avance, mais je ne sais pas où je vais. Et c'est ça. Je pense le point délicat dans l'histoire de la maladie, de la sexualité et de l'amour. C'est-à-dire, si j'aime, je devine. Si j'aime, je prends ce que j'ai à côté de moi.
Alors, il peut y avoir, lorsque l'homme ou la femme va subir ou est atteint d'un cancer, donc il y a toute cette phase aussi d'acceptation de la maladie. Je pense qu'on est préoccupé par que ça doit tourner en boucle. Donc, effectivement, on n'a peut-être pas forcément envie de faire des câlins avec son mari ou sa femme, suivant. Mmh. Et les deux peuvent être inquiets. On prend aussi conscience que ça peut s'arrêter. Oui. Mais il y a toute cette phase où il y a la chimio, il peut y avoir de la chimio, il y a des produits durs, transformation, perte de cheveux, perte des sourcils, des poils. Et puis la faiblesse, le teint, la fatigue.
Faiblesse, la fatigue, et puis ça va encore beaucoup plus loin, une femme à qui on a fait une hystérectomie, on a enlevé l'utérus, les ovaires, etc., ou les seins, l'homme à qui on a détecté un cancer de la prostate, il y a cette question chez l'homme et chez la femme, est-ce que je suis encore un homme pour l'homme? Est-ce que je suis encore une femme pour la femme? Et ça, c'est...
C'est double peine sur d'autres...
C'est double peine.
Oui.
Et est-ce que je suis encore une femme par rapport au désir de l'autre? Est-ce qu'il va me désirer? Ou lui, dans son cancer de la prostate, avec la peur, cette peur de la dévirilisation, je ne suis plus un homme, donc il va mettre des barrières autour de lui et la femme ne va pas oser aller vers lui. Il va se sentir totalement impuissant. Et c'est très, très difficile pour les hommes et pour les femmes.
Comment réapprovisionner son couple après le cancer? C'est vraiment aussi une très belle conférence qui sera donnée par Virginie Gasque, on l'a dit, Virginie Gasse, donc psychologue, clinicienne, sexologue et onco-sexologue, oui. Gérontopsychologue en EHPAD. Elle exerce en libéral à Tarbes et à Pau. Oui. Elle est chargée du cours DIU de sexologie de Toulouse et Paris Diderot.
Oui.
Elle est formatrice auprès des soignants pour la prise en compte de la vie affective et sexuelle des personnes âgées ou handicapées mentales. Donc voilà, quelqu'un aussi de compétent qui parlera donc de cette question sur la maladie, le cancer, ce fichu cancer et son couple. Voilà. Et puis on termine à 16h30 par une autre conférence, ce sera la dernière de la journée, La vérité de l'âge, avec André Corman. André Corman, on l'a présenté tout à l'heure, il est directeur d'enseignement à la faculté de médecine de Toulouse, 3. Il est vice-président de l'association interuniversitaire de sexologie, titulaire de la Société francophone de médecine sexuelle et philosophe également. Il est fort regrettable de porter un regard d'exclusion sur la sexualité de nos aînés. L'amour ne peut être au centre des mécanismes de résistance au handicap et au vieillissement, capable à lui seul parfois de faire échec à la maladie. Conférence aussi très intéressante parce que à un moment, nos anciens, on n'imagine même plus qu'ils aient une intimité ou une sexualité.
Oui, et même ils se trouvent souvent dans des situations d'isolement sensuel, terrible. On ne les touche plus. Ils ne sont plus touchés par personne. S'il n'y a pas les petits-enfants ou les enfants qui
ils n'ont plus même de
qui donnent de la tendresse, ils n'ont plus de marque d'affection. Et je pense que, et même je suis persuadée, jusqu'à la fin de la vie, il y a chez l'être humain encore de la sexualité. Il y a ce désir d'être regardé, d'être touché, d'être écouté, et non pas que plein et comme un enfant. Il y a dans les EHPAD ou dans les maisons de seniors, il y a des rencontres amoureuses, sexuées ou asexuées. C'est pas le principal. La sexualité, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça aussi, il faut arrêter avec ça. Pour moi, la sexualité, c'est l'érotisme, c'est un art. On n'est pas obligé de faire du piano, on n'est pas obligé de faire de la peinture, on n'est pas obligé non plus d'avoir une sexualité avec la personne qu'on aime. Et chez les personnes âgées, où souvent l'homme se sent moins viril, où la femme se sent moins féminine, il y a des attirances amoureuses, il y a des histoires d'amour, mais ça aussi c'est tabou, ça n'est pas dit.
Caché.
C'est caché, oui.
C'est caché. Ça c'est votre combat, hein. À nous de le couple. Hein. Ça vous embête, ça.
Cette phrase que vous aimiez tout à l'heure, donc je vais la redire.
Vous allez la redire. Alors,
Quand l'enfant paraît, hein, c'est les titres de livres. Hein. Quand un enfant paraît, c'est magnifique, c'est la bonne nouvelle, c'est merveilleux, on réunit tout le monde. Mais 9 mois avant, il y a eu une relation sexuelle, un acte d'amour ou un acte sexuel. Et ça, c'est...
Ça, on en parle moins.
C'est tabou.
Oui. On regarde le bébé.
C'est même presque sale.
Oui. Ouais. Mais on ne regarde pas le résultat de ce bébé, c'est-à-dire ce qui s'est passé quelques mois avant.
Oui.
Oui. Ça, on le cache. Et ça, c'est votre combat. À nous de le couple, très belle association qui organise donc cette belle journée. Cette belle journée, le 14 octobre, c'est un dimanche, je crois. Samedi 14 octobre, l'entrée libre et gratuite. C'est à la mairie de Tarbes, carrément. Voilà, la salle des fêtes, la magnifique salle des fêtes de la mairie de Tarbes. Vie de couple, l'amour ne suffit pas. Et on peut remercier, je crois, la mairie de Tarbes qui s'est mis vraiment en cadre pour vous.
Je remercie particulièrement M. Gérard Trémège qui a vraiment... qui nous aide beaucoup.
Voilà. J'ai le prospectus, ça a été fait aussi aidé par la mairie de Tarbes.
Aidé aussi par le CDAD de Tarbes. Financièrement, on a été aidé aussi par oui, le CDAD.
Je vois le Crédit Agricole et la mairie de Tarbes.
D'accord. Oui.
Voilà, puisque je vois les sponsors qui sont sur votre plaquette.
Oui.
Voilà, des belles conférences, table ronde, des jeunesse et sexualité, conférence de la passion amoureuse à l'amour dans la continuité, le couple, ça s'apprend. Comment réapprovisionner son couple après le cancer
réapprivoiser,
voilà, pardon.
Oh, réapprovisionner, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi, oui. La vérité de l'âge. Voilà, donc ce sont des conférences que vous pouvez donc suivre sans aucun problème. Et peut-être qu'on aura la chance d'avoir ces conférences donc en vidéo et qu'on pourra peut-être regarder sur YouTube si malheureusement on ne peut pas être présent ce jour-là. Merci beaucoup, Esmeralda Pereira, merci d'être venue. On n'avait pas trop parlé, mais on discutait au début de cet entretien préparant. Vous disiez que c'était pas facile quand on est parent de parler à ses enfants de sexualité. Vous avez la chance de pouvoir librement discuter avec vos filles. Ça, c'est plutôt bien. C'est pas donné à tout le monde de parler de ça. On a encore, vous le disiez, ce tabou de parler de ça avec ses propres enfants. On a l'impression que quand on est ado et jeune marié, que c'est un truc qui ne fera aucun problème. On en parlera. Et puis, en fait, quand on se retrouve aux parents, eh bien, marche arrière toute. On fait l'autruche, on fait un trou, on met la tête dedans et on attend que ça se passe. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Merci, Esmeralda, d'être venue. Et en plus, ça a été compliqué pour venir jusqu'à nos studios. Merci à toutes les deux. Et vous, merci, bien sûr, Anne-Marie Wolfsfeldt, thérapeute de couple et sexologue.
Je vous remercie.
Et présidente de cette belle association. À très bientôt.
À très bientôt.